7 mois viennent de s'écouler depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. Témoin d'actu y a déjà consacré 3 épisodes. Le premier au sortir de cette attaque, un épisode dans lequel Guilhem Delteille racontait comment, à Jérusalem et à Paris, la rédaction de RFI s'était mobilisée pour rendre compte de l'événement. C'est lui que je retrouve aujourd'hui. Il est rentré de sa 4e mission sur le terrain et j'ai eu envie qu'il me raconte quelle société, au pluriel, était en train de se dessiner dans ces territoires. En réponse à cette attaque, au cours de laquelle 1200 personnes ont été tuées, plus de 200 prises en otage, les autorités israéliennes ont promis la destruction du Hamas. L'opération militaire lancée à Gaza a fait à ce jour plus de 34 500 morts, des chiffres qui émanent du ministère de la Santé du Hamas. L'enclave palestinienne ressemble à un champ de ruines et les adjectifs qualificatifs choisis pour décrire la situation humanitaire sont chaque jour plus forts. Mais cette guerre n'a pas seulement un impact sur Gaza. La Cisjordanie et Jérusalem-Est, les autres territoires palestiniens, paient également un lourd tribut. Et ça aussi, Guilhem va m'en parler. Bonjour Guilhem.
Bonjour Alexandra.
Tu m'as rappelé avant que l'on se retrouve que c'était la 4e fois depuis l'attaque du 7 octobre que tu partais en reportage en Israël. En fait, les journalistes qui forment le desk Proche-Orient, comme on dit à la RFI, se relaient pour seconder le correspondant permanent à Jérusalem. 4e mission donc, et tu arrives cette fois dans un contexte assez particulier.
Oui, effectivement, c'est une mission qui avait été déclenchée en urgence, qui n'était pas prévue, mais qui a été décidée par la rédaction en chef de RFI après la nuit du 13 au 14 avril, celle au cours de laquelle l'Iran a lancé une attaque inédite contre le territoire israélien. Plus de 300 drones et missiles tirés depuis le territoire iranien vers Israël. L'essentiel a été intercepté par les défenses antiaériennes des États-Unis et d'Israël, mais c'était un moment de grande inquiétude quand même au niveau régional, le moment où en fait ces tensions permanentes depuis longtemps entre deux ennemis de longue date devenaient plus saillantes, plus fortes et où on craignait un embrasement complètement de la région.
Du coup, l'idée pour cette mission, c'était quoi? C'était surtout de prendre le pouls, d'en savoir plus sur l'état d'esprit des habitants avec cette attaque. Parce que c'est vrai que, vu de Paris, on avait l'impression que tout ça allait vraiment s'embraser encore plus que ce que ça n'était jusqu'à présent.
Alors, l'inquiétude internationale était quand même très très forte. On a vu tous les efforts diplomatiques qui ont eu lieu à ce moment-là, les pressions, les coups de fil. C'est quand même beaucoup de pression de la part des pays occidentaux sur Israël pour éviter un embrasement complet et donc éviter que la riposte israélienne à cette riposte iranienne à l'attaque israélienne de début avril n'attise finalement cette violence en fait. Donc oui, l'inquiétude elle était réelle. Moi je pars à ce moment-là effectivement pour être présente sur place si jamais cette riposte et ce cycle de violence devait prendre une autre tournure. Et effectivement, pour faire un peu de reportage côté israélien, côté palestinien, à ce moment qui est quand même un moment un petit peu clé, un petit peu charnière, un moment en tout cas un peu différent de ce qu'on a connu depuis le 7 octobre, même si cette région est en guerre quand même depuis maintenant pas loin de 7 mois.
Et alors là, moi j'écoute tes reportages en Israël, je m'attends à entendre des gens terrorisés par ce qui se passe, et finalement, pas tant que ça.
Alors, c'est vrai, mais pour pondérer un petit peu, moi je suis arrivé après l'attaque aussi. Je pense que dans la nuit du samedi au dimanche, l'inquiétude ou la peur pouvait être beaucoup plus présente. Il y avait une incertitude en tout cas, en fait, de savoir ce qui allait arriver, ce qui allait se passer. On a senti déjà le samedi dans l'après-midi les tensions monter et puis le samedi soir, une mobilisation un peu partout en Israël, à Washington. Tout ça a été crescendo et je pense donc qu'au moment même de l'attaque, il y avait quand même une très forte incertitude sur quel était le scénario, ce qui allait se passer et que donc les gens ont pu le vivre un peu différemment. Moi, quand j'arrive, Effectivement, cette attaque a fait une blessée grave, une fillette qui a été blessée par des éclats d'un des missiles ou d'un des drones qui a été abattu par la défense antiaérienne. L'armée israélienne dit en fait que 99% des drones et des missiles qui ont été tirés vers le territoire israélien ont été interceptés en route ou au-dessus du territoire israélien. Donc finalement, en fait, il y a un bilan humain léger, des dégâts matériels assez limités d'après ce que dit l'armée israélienne qui n'ont touché en fait qu'une base aérienne située dans le désert du Negev. Donc on est dans un moment un peu de dédramatisation effectivement, et il y a même des vidéos, des commentaires un petit peu ironiques, oh, les Iraniens nous attaquent, et en fait on voit un avion joué passer devant la caméra en disant voici ce que c'est qu'une attaque iranienne. Donc on est sur ce moment a posteriori. Il y a aussi une certaine habitude côté israélien, depuis la création de l'État d'Israël, si on veut remonter jusqu'au début, mais en tout cas depuis plus de 6 mois, avec cette guerre qui est là, qui est présente sur leur territoire, et du coup, une façon de vivre avec, en fait, qui s'est installée.
Ça s'inscrit dans une certaine normalité, et la vie reprend son cours, on retourne au travail, on retourne faire ses courses.
Alors, complètement, effectivement. C'est un grand changement par rapport à mes premières missions en octobre et puis en novembre. Les deux premiers passages que j'ai fait après l'attaque du 7 octobre étaient dans les premières semaines qui ont suivi l'attaque. Là, le pays, on sentait vraiment un pays à l'arrêt, un pays sous le choc. Il y avait effectivement une chape de plomb qui s'est abattue et qu'on sent beaucoup moins aujourd'hui. La vie économique notamment a repris. Les commerces ont rouvert, les bars, les restaurants, les gens sortent. Alors, c'est pas forcément la même ambiance qu'avant, c'est pas forcément la même légèreté, la même détente, mais il y a quand même ces moments de loisirs. En fait, ça on le retrouve, ce qui n'était pas le cas du tout dans les premières semaines. Donc oui, il y a une sorte de reprise, de retour à la vie normale qui s'est instaurée. On le sent aussi à l'aéroport de Tel Aviv, d'ailleurs. Là, moi, j'étais au moment de la fête juive de Pessah, la Pâque juive, et il y avait beaucoup de gens qui partaient en vacances chez des proches ou en voyage, etc., mais qui utilisaient ces périodes-là pour aller voyager, faire du tourisme.
Une toute autre ambiance, j'imagine, en tout cas c'était aussi ce que tu étais allé voir dans les territoires palestiniens.
Oui, alors je voudrais juste pondérer un tout petit peu ce que je viens de dire sur la société israélienne. Certes, la vie a repris un certain cours normal, mais on sent encore quand même très fortement le traumatisme du 7 octobre et les traces que ça a laissées de manière durable dans la société israélienne. Et par exemple, les photos des otages israéliens retenus dans la bande de Gaza depuis maintenant pas loin de 7 mois sont omniprésentes en Israël. On les voit à Jérusalem, on les voit à Tel Aviv, on les voit un petit peu partout avec des slogans parfois tagués sur des ponts, sur des murs, libérer un tel, ramener à la maison tel autre, etc. Donc ça c'est très présent et ça reste très fort. La société israélienne est encore sous le choc. La société israélienne se sent aussi quand même profondément, intrinsèquement menacée. La crainte des Israéliens est quand même que l'avenir de leur pays n'est pas nécessairement assuré. Et c'est une crainte qu'on retrouve un petit peu aussi côté palestinien. Il y a le choc, évidemment, du bain de sang à Gaza, de toutes ces images horribles qu'on voit venir de la bande de Gaza, des familles qui peuvent être décimées, qui résonnent évidemment de manière très très forte pour les Palestiniens de Cisjordanie, de Jérusalem-Est, et d'autres qui vont dire c'est quoi l'étape d'après, en fait. Les Palestiniens parlent d'un génocide de la part d'Israël sur les Palestiniens de Gaza, mais ils se demandent si cela va s'arrêter à la bande de Gaza. Est-ce que l'étape d'après, c'est pas aussi des actes semblables, similaires, sur les Palestiniens de Cisjordanie, voire de Jérusalem-Est? Et ça, c'est une crainte qu'on peut retrouver effectivement chez un certain nombre de Palestiniens. Ce qui diffère un petit peu d'Israël aussi, c'est peut-être en termes de vie économique. Il y a beaucoup de barrages militaires qui ont été instaurés par l'armée israélienne en Cisjordanie. Les colons israéliens, donc ces citoyens israéliens qui vivent en territoire palestinien, un certain nombre d'entre eux ont été armés par le gouvernement depuis le 7 octobre. Et donc, du coup, il y a une crainte beaucoup plus forte aussi pour les Palestiniens, beaucoup plus de violence, en fait, israélienne contre
armés
les Palestiniens.
Pour pouvoir se protéger, hein, c'est ça, en cas d'attaque éventuelle.
C'était l'idée, effectivement, du gouvernement. Et donc, du coup, on a vu aussi un débordement de violence de ces colons sur des citoyens palestiniens. On a vu aussi plus de tensions entre les civils palestiniens et l'armée israélienne. Et donc, du coup, ça pèse sur l'activité économique, ça pèse sur le moral des gens. Un certain nombre de personnes qui se déplacent beaucoup moins entre les villes parce que c'est devenu plus dangereux tout simplement de se déplacer de Ramallah à Naplouse, de Bethléem à Hébron, entre des villes palestiniennes. C'est prendre un risque aujourd'hui que de prendre la voiture.
Est-ce que la douleur de l'autre, que ce soit en Israël ou dans les territoires palestiniens, c'est quelque chose qui s'inscrit dans les conversations ou pas du tout?
Alors évidemment, il peut y avoir quelques voix qui vont porter ce message-là, qui vont avoir cette attention, plutôt soit des personnes très engagées en faveur d'un processus de paix ou des intellectuels, mais de manière générale, j'ai tendance à dire que non. Non, chaque société est enfermée dans sa douleur très forte, très réelle, et a du mal à voir la douleur de l'autre. Quand on voit les manifestations des familles d'otages, par exemple, du côté israélien, qui se rassemblent tous les samedis soirs, toutes les semaines, dénoncent beaucoup la situation humanitaire dans laquelle se trouvent leurs proches dans la bande de Gaza, qui est absolument catastrophique. Il y a beaucoup moins de mots pour dire en fait que c'est la même situation humanitaire pour les civils gazaouis aussi. Enfin, c'est un exemple, je ne veux pas leur jeter la pierre du tout, mais c'est une façon de montrer en fait finalement que sa douleur à soi est prégnante et on en oublie peut-être de voir la douleur de l'autre en fait. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de très grande compassion pour ce qui peut se passer de l'autre côté.
À Gaza, donc, la guerre, elle continue. Une situation humanitaire, tu l'as dit, et on le dit beaucoup dans les médias, catastrophique. On ne peut toujours pas rentrer à Gaza, sauf à être accompagné, avoir l'autorisation éventuellement de l'armée israélienne. Toi, tu as réussi quand même à rentrer en contact, alors par téléphone, avec une femme qui, elle, a pu quitter Gaza via le poste frontière de Rafah. Elle est partie avec ses filles et son fils, direction l'Égypte. Un long parcours financier, psychologique, qu'elle va t'expliquer très en détail.
Oui, on a passé un long moment au téléphone ensemble. En fait, c'est une dame avec qui j'ai parlé à plusieurs reprises depuis le 7 octobre, qui habitait dans le nord de la bande de Gaza, qui, au moment du début de l'opération terrestre, c'est une opération aérienne uniquement dans les premières semaines, puis au bout de 2-3 semaines, l'armée israélienne a lancé une opération terrestre également dans la bande de Gaza. Et elle est entrée par le nord, et donc en fait, les villes et les quartiers du nord de la bande de Gaza ont été les premiers touchés. Donc elle a fait partie des premières personnes à regagner le sud, Khan Younes, où ils se sont installés dans un centre de l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, qui accueille toujours énormément de ces déplacés dans ces infrastructures, ou celles qui sont encore debout en tout cas. Et puis ce centre-là a aussi été ciblé par une attaque de l'armée israélienne. Donc elle me dit, on a échappé déjà 2 fois à la mort en quelques semaines. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il n'y avait pas d'endroit sûr dans la bande de Gaza. Donc là, on est début novembre dans son esprit. Et c'est ce moment-là où elle se dit, il faut partir.
Mais partir, ça demande de l'argent et une grande force d'esprit aussi.
Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience, incontestablement. Sur le plan financier, c'est 5 000 $ par personne. C'est la somme que demande l'Égypte aux Palestiniens qui veulent sortir. Donc elle est sortie avec 3 enfants, ça fait 20 000 $ à sortir. Le liquide manque aujourd'hui dans la bande de Gaza. Hein. L'économie, évidemment, ne tourne plus. Les coffres des banques n'ont plus tant de liquide que ça. Et donc, les personnes sont limitées en montant qu'elles peuvent retirer. Donc, toutes les semaines, pendant un peu plus de 2 mois, elle est venue à la banque retirer le maximum auquel elle avait le droit toutes les semaines. Et il a fallu attendre encore 45 jours avant que son nom apparaisse sur les listes. En fait, tous les soirs, les Égyptiens publient une liste de noms de personnes qui sont autorisées à passer le lendemain le poste frontière de Rafah. Donc tous les soirs, elle guettait. Et puis, au bout de 45 jours, son nom, celui de ses enfants, est apparu sur la liste. Et donc le lendemain matin, aux aurores, elle est partie, s'est présentée au poste frontière, elle est arrivée en Égypte. Mais donc, en tout, ça a été plus de 3 mois de préparation. Entre le moment où elle a pris la décision de partir et le moment où elle a pu partir, il s'est déroulé plus de 3 mois.
Je sais que cette rencontre, même si elle a eu lieu uniquement par téléphone, elle t'a beaucoup touché. Comment tu l'expliques ?
Moi, je pense que il y a quelque chose qui peut toucher tout le monde, c'est parler à quelqu'un qui est dans une situation aussi dramatique, c'est forcément émouvant, c'est des situations qui ne peuvent laisser indifférent. Donc oui, c'est un témoignage qui est difficile à entendre et qui émeut, et puis elle dégage une chaleur aussi, elle dégage quelque part une force aussi, parfois un optimisme. Elle est capable, même quand elle était encore dans la bande de Gaza, avec toutes les horreurs autour d'elle, il y avait des moments où elle tombe en larmes, et il y a des moments où elle est capable de petits rires, etc. Enfin, c'est les émotions de la vie, elle est extrêmement touchante. Enfin, moi, personnellement, en tout cas, elle m'a beaucoup touché. Je sais que Nicolas Benita, le réalisateur qui m'a beaucoup accompagné au cours de ses missions, a été souvent très ému aussi par son reportage, qu'à chaque fois qu'on raccrochait, on se regardait en disant...
Et elle espère, son souhait, évidemment, c'est de retourner à Gaza, même si elle doute de pouvoir le faire, en tout cas dans l'immédiat.
On sait que ce ne sera pas dans un futur très très proche, mais effectivement, elle nourrit cet espoir de pouvoir retourner dans la bande de Gaza. Elle me dit que Gaza était une ville magnifique, on la reconstruira aussi belle qu'elle était, aussi résiliente, aussi vivante. Et l'idée qu'il y aura des jours meilleurs peut-être à un moment, mais beaucoup le partagent encore aujourd'hui. Enfin, en tout cas, on le retrouve dans son témoignage à elle, et ça c'est assez fort aussi après 6 mois et demi de guerre.
Tu as employé le mot de résilience. Est-ce que, selon toi, faire société, que ce soit côté israélien ou côté palestinien, ça a encore un sens aujourd'hui ?
Alors, je pense qu'il y a un effet immédiat de cette guerre sur les deux sociétés qui est d'unir face à l'adversité. Alors qu'on parlait beaucoup, notamment côté israélien, de division autour de la réforme judiciaire que voulait mettre en place le gouvernement Netanyahou, qui a entraîné de très 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 importantes manifestations dans tout le pays. Il y a eu un moment où, en fait, effectivement, après le 7 octobre, face à l'horreur du 7 octobre, une sorte d'union nationale. On retrouve ça aussi un petit peu côté palestinien, où il y a aussi ces divisions entre la Cisjordanie et la bande de Gaza, entre le Fatah et le Hamas. Et ça s'est un petit peu tu, peut-être un peu moins au niveau politique, mais en tout cas dans les sociétés, etc., il y avait cette unité qui était mise en avant. Combien de temps cet effet durera, c'est difficile à dire. Côté israélien, on voit d'ailleurs qu'on commence déjà à voir que ça s'estompe, que les manifestations des proches d'otages sont dites hebdomadaires, voire plus d'ailleurs, parfois avec d'autres rassemblements entre deux manifestations du samedi. Et les revendications politiques réapparaissent. Certains réclament déjà des élections anticipées, veulent que Netanyahou rende des comptes. C'était des revendications qui n'existaient pas du tout dans les premiers mois et qui commencent à réapparaître aujourd'hui. Et donc je pense que l'après-guerre fera ressurgir aussi ces divisions et notamment ces interrogations que les uns et les autres peuvent avoir sur l'avenir de leur propre société, quelle société ils veulent bâtir. Dans une de mes premières missions, je ne saurais plus te dire si c'était la première ou la deuxième, mais bon, donc en octobre ou en novembre, j'avais rencontré un militant israélien anti-occupation qui, lui, me pronostiquait carrément une guerre civile en disant « Oui, effectivement, la société israélienne est de plus en plus radicale, mais nous, nous ne nous laisserons pas faire, nous ne les laisserons pas dicter ça, que ce soit pour les Palestiniens ou pour d'ailleurs aussi eux. Hein, » C'est cette radicalité, elle se traduit aussi par une religiosité plus affirmée. Et donc, un certain nombre d'Israéliens laïcs, etc., ne se reconnaissent pas forcément dans ces projets de société. Lui disait on ne se laissera pas faire. Alors, est-ce qu'il y aura guerre civile ou pas? Je me garderais bien de faire ce pronostic-là. Et cette analyse est peut-être un petit peu exagérée, mais ce que je veux dire, c'est que ça traduit bien quand même le fait que les divisions, elles restent là, qu'elles peuvent tout à fait réémerger très facilement ou très rapidement, en tout cas après la guerre.
Quant à faire société tous ensemble, on en est très très loin.
On en est très loin, puisque aujourd'hui, aucune des deux parties n'a vraiment de place pour entendre la souffrance de l'autre. On peut se poser la question d'abord de savoir est-ce que c'est l'objectif de faire société ensemble dans l'idée d'une solution à deux États. L'idée, c'est plutôt justement d'avoir deux sociétés qui savent cohabiter ou vivre côte à côte, en tout cas, mais qui ne sont pas censées forcément
cohabiter
et véritablement vivre ensemble. Certains disaient « Ah, cette solution, elle est dépassée, on ne peut plus faire ça. » Les territoires sont trop imbriqués, les économies sont trop imbriquées, etc. Il faut plutôt un système un peu fédéral, il faut une solution à un État en réinventant quelque chose, soit un système plus fédéral ou autre. Et ça nécessite une cohabitation. Et en fait, certains disent, pour le coup, on ne sait peut-être pas de quoi demain sera fait, mais la solution à un État semble bien, bien compliquée, parce que la solution à un État impliquerait une cohabitation qui, aujourd'hui, semble très difficile.
Merci beaucoup, Guilhem, d'être passé de nouveau dans Témoins d'Actu.
Avec plaisir.
Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Comme d'habitude, je vais vous mettre tous les liens, et notamment les liens vers le reportage de Guilhem avec Rim. N'hésitez pas à partager cet épisode, ça donne encore plus de visibilité à Témoins d'Actu sur les plateformes de podcast. À très vite.